France Musique. Musique et moi.
Marc-Alain Wakeling.
Elsa Boublil.
C'est pour cela qu'on aime les libellules.
Franz Kafka. C'est sur la sarabande de la deuxième partita pour violon en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Maxime Wengerhoff, que nous vous accueillons, Marc-Alain Wachnin, rabbin et philosophe, professeur à l'université Bar-Ilan à Tel Aviv en Israël. Vous venez d'écrire la Genèse de la Genèse aux éditions Diane de Sellier, les 11 premiers chapitres de la Genèse dans une nouvelle traduction que vous avez faite, Marc-Alain Wachnin, illustré de peintures abstraites du XXe siècle. Vous êtes également le producteur de Talmudic sur France Culture en coproduction avec Françoise-Anne Ménager le dimanche de 9h10 à 9h42. Alors pour les auditeurs qui vous ont écouté, voilà, je suis sûre qu'ils seront ravis de vous retrouver maintenant sur France Musique. Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Bonjour Elsa Boubil.
Alors ce livre, La Genèse de la Genèse, est une belle occasion de vous inviter. C'est un livre qui nous transporte dans la liturgie juive, le rapport au sens et aux mots, voire à la vibration et à l'harmonie par rapport à l'univers. Je m'aventure un peu, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et où la musique a donc parfaitement sa place. Et on a pu l'entendre là. J'avais envie de faire résonner cette phrase que vous avez choisie de Franz Kafka. C'est pour cela qu'on aime les libellules avec cette partita en ré mineur, la sarabande. Parce qu'il y a quelque chose dans ce livre et dans cette phrase qui nous plonge à la fois dans la profondeur de l'existence et dans une forme de magie de l'être.
Oui, alors cette phrase qui est peut-être la, pour moi la phrase la plus belle de la littérature. Alors, je crois qu'il faut la remettre dans son contexte, c'est-à-dire Kafka est en train de mourir. On est en 1924, il a une tuberculose du larynx, enfin il n'arrive plus à parler et il est à la clinique. Et on vient le voir et comme il ne peut pas parler, les autres, les invités, ceux qui viennent, parlent, mais lui répond par écrit sur des petites feuilles qui ont été éditées sous le nom de feuillets de conversation
ou
paperolles. Ouais, c'est les paperolles de Kafka. Et il y a des dizaines, voire des centaines de phrases qu'on trouve donc dans la Pléiade, dans le tome 3.
Et vous avez pris,
que
hein.
J'ai amené parce que j'aime bien avoir le livre, toucher le livre. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que la phrase d'avant, je vais vous la lire, il dit « J'expectore énormément, facilement, et pourtant avec des douleurs le matin. Dans mon ivresse, l'idée m'est passée par la tête que pour ces quantités et cette facilité, le prix Nobel, je ne sais comment. » C'est-à-dire que il a très peu écrit, mais il y a l'idée qu'il pourrait recevoir le prix Nobel de littérature. Mm. Ça, on le sait peu, mais ça veut dire qu'il a énormément, je dirais, d'estime de son écriture. Enfin, c'est pas une mégalomanie, c'est une estime. Et cette phrase qui suit juste après, c'est pour cela qu'on aime les libellules. En quoi elle est extraordinaire? Parce que c'est une réponse, mais on ne sait pas à quelle question elle répond. Et on ne saura jamais à quelle question elle répond. Et donc, il y a une sorte d'ouverture fabuleuse, il y a une sorte d'infini de non-savoir qui nous porte et qui ouvre l'intelligence.
Et qui renvoie effectivement à la problématique de l'être, c'est ce que je disais à l'instant, Marc-Alain Wachnin.
Oui, à la problématique de l'être, parce que l'être est, parce qu'il est ouvert vers le futur. Mandelstam disait Ossip Mandelstam disait à propos de l'enfer de Dante, il dit l'enfer c'est un lieu où la grammaire n'a plus le verbe au futur, alors que l'homme c'est quelqu'un qui se projette en permanence, c'est quelqu'un qui construit, qui invente, qui veut faire quelque chose, qui est plein de volonté. Et quand on a une réponse définitive sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on sait, on s'arrête. Et c'est la dimension du non-savoir, celle ici par exemple de cette question, on ne sait pas, qui est extraordinaire. Il y a un autre texte de Kafka, si je peux me permettre, très court, où ça s'appelle L'examen, et il est dans un café, et puis on l'invite à boire. Et puis à la fin, on lui pose des questions et il n'arrive pas à répondre aux questions. Alors il dit à celui qui l'a invité, peut-être tu veux que je m'en aille. Il dit non, ici, seul celui qui ne répond pas aux questions a réussi l'examen.
Et voilà, nous on va vous en poser des questions, Marc-Alain Wachnin, vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin, jusqu'à 12h30 sur France Musique. L'occasion de parler de la Genèse de la Genèse et puis de votre rapport à la musique qui est finalement très imbriqué avec le rapport au texte.
Thank you.
l'Allegro con fuoco de la symphonie numéro 9 en mi mineur opus 95 de Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan. Marc-Alain Wecknin, on a beaucoup parlé de Kafka tout à l'heure, on a peu parlé de Bach mais on va pouvoir en parler de nouveau. Et Dvorak constitue l'un de vos premiers émois musicaux, en tout cas souvenirs en tant que tel, je crois.
Oui, alors c'est étonnant parce que ça reste toute la vie, on s'en souvient. C'était à l'âge de mes 13 ans, pour ma bar mitzvah, on m'avait offert un petit phonographe et quelques disques. Et dans ces disques, il y avait de Deutsche Grammophon, il y avait à la fois cette symphonie du Nouveau Monde, il y avait le concerto numéro 1 de Tchaïkovski et je crois le concerto numéro 5, l'Empereur de Beethoven. Et en même temps, j'avais reçu une petite mallette de chimiste dans laquelle il y avait une baguette en verre qui m'a tout de suite inspiré pour, devant la glace, devenir le chef d'orchestre pour mener à la baguette cette musique avec cette impression de produire la musique. Je pense que d'ailleurs, j'ai beaucoup regardé les jeunes enfants qui écoutent la musique et quand ils ont vu un chef d'orchestre, ou peut-être naturellement, ils font ce mouvement de la main pour accompagner. Et je pense qu'il y a un sentiment de pouvoir, comme si vraiment c'était les mains qui s'agitaient, qui produisaient cette musique. Mmh. Et ça m'est toujours resté. Et ce qui est important, c'est que j'ai depuis essayé de comprendre le lien qu'il y avait entre cette bar mitzvah et...
Donc le passage à l'âge adulte.
Voilà, alors la bar mitzvah, je le rappelle, c'est le rite d'initiation dans le judaïsme qui fait que l'on passe à l'âge adulte à 13 ans pour les garçons et à 12 ans et demi pour les filles. Et ça se fait par un rituel de lecture, puisqu'il s'agit de lire un passage en hébreu, chanté justement, à la synagogue, de le comprendre. Donc il y a un rapport à la traduction. Et puis il y a aussi un deuxième moment, c'est une fois qu'on l'a compris,
on
l'analyse et on l'interprète. Et on doit donner un nouveau commentaire, ce qu'on appelle un chidouche. C'est-à-dire que l'on fait un discours en disant « voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui a été dit, mais voilà ce que je peux ajouter moi-même sur les commentaires qui ont été déjà donnés. » Et ça, c'est déjà formidable parce qu'à 13 ans, on dit à l'enfant qu'il a la liberté, qu'il a l'autonomie, la possibilité d'avoir sa propre parole, qu'il est sujet de son intelligence et qu'il peut ajouter quelque chose.
Et c'est ça qui donne envie de diriger l'orchestre, ce rapport à l'autonomie, de penser.
Il y a ce rapport à l'autonomie, mais je crois que ce qui m'a touché, c'est que quand on crée un nouveau sens, c'est un nouveau monde que l'on crée. Et c'est là que la symphonie du Nouveau Monde m'a touché, parce que je me suis dit, j'entre moi-même dans un nouveau monde qui est le monde des adultes. J'ai maintenant peut-être des outils pour donner des paroles plus personnelles, c'est-à-dire avoir une intelligence, alors que à l'école, au même moment, on était toujours dans une sorte de maître qui sait, mais qui n'invite pas à la liberté d'interprétation. Et là, on est dans ce rite d'initiation, on est vraiment dans cette inventivité du sujet par la lecture et l'interprétation.
Et la musique du Nouveau Monde vous faisait figurer que c'était en effet un nouveau monde.
Exactement.
Oh.
un extrait de Judas Maccabée de Handel par l'orchestre du festival de Göttingen et le chœur du NDR de Hambourg sous la direction de Laurence Cummings. Je crois, Marc-Alain Wachnin, que je vous ai vu le chanter, donc c'est un souvenir aussi de post-bar mitzvah, de jeunesse, de...
Pré-bar mitzvah.
Pré-bar mitzvah.
Ça vient avant, c'est-à-dire que mon père était donc, il est toujours, mais était rabbin, et puis il était surtout scout avant d'être rabbin, et puis il était chef de chœur. Et il dit toujours qu'il avait été très heureux de monter ce moment de cet oratorio. Il y a plusieurs versions, là on vient de l'entendre en anglais. Il y a une version française qui s'appelle « Chantons la gloire du Seigneur » qu'on chante à l'église. Mmh. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, que ça soit quelque chose qui se chante à l'église, parce que on est une famille de rabbins qui est très particulière, parce que on commence toutes les journées par une prière de remerciement à un curé, à un chanoine, le chanoine Raymond Vancourt, qui, pendant la guerre, a sauvé ma mère et toute la famille de ma mère en les cachant d'abord chez lui et ensuite à la campagne dans le Pas-de-Calais. Et ça, je crois que c'est très important, parce que dès que j'entends un chant d'église, j'ai ce moment de remerciement, et j'aime à me souvenir qu'en hébreu, le mot juif veut dire merci. C'est-à-dire que savoir dire merci est quelque chose d'absolument essentiel.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Le rabbin et philosophe Marc-Alain Wachnin est l'invité de Musique et moi ce matin jusqu'à 12h30. Et alors justement, c'est cette question de l'identité, du rapport à cette musique, au catholicisme, au judaïsme, il y a aussi la place de la République là-dedans. Ça s'entrevoit tout le temps quand on lit la Genèse de la Genèse. On sent que la réflexion est bien au-delà simplement du texte.
Marc-Alain Wachnin. Parce que j'ai eu une éducation, et je transmets, j'essaye de transmettre une éducation qui est ce tissage, parfois complexe, mais qui, quand on est habitué, ne l'est pas, entre une pensée juive et une manière juive d'exister, si cela fait sens en s'inscrivant dans la tradition, tout en étant au cœur même de la tradition républicaine la plus juste, la plus forte. Et c'est, je crois, quelque chose que j'ai eu la chance de recevoir, parce que mes parents eux-mêmes l'avaient déjà reçu. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette tradition? Ça veut dire que l'on pense toujours en dialogue. On pense en dialogue, ça veut dire qu'on se pose la question à chaque fois comment ce que je suis en train de dire n'est pas simplement dans les textes de la tradition juive, mais ont une valeur, une possibilité d'être énoncé de manière universelle. Et donc, ma manière de penser est toujours une traduction. J'essaie de traduire en langage universel ce que je rencontre en langage singulier.
La traduction, on va pouvoir en parler, Marc-Alain Wachnin, puisque votre mère était prof d'anglais, que votre père a émigré du Maroc, que on vous a enseigné l'hébreu et que les langues sont au cœur de votre éducation. Et les langues, vous faites un lien direct avec la musique, on en parle dans quelques instants.
Thank you.
Robert Véron-Lacroix et Jean-Pierre Rampal interprètent ce Largo e Dolce de la sonate en si mineur BWV 1030 de Jean-Sébastien Bach. Parce que, Marc-Alain Wachnin, parmi toutes vos passions de jeunesse, après avoir tenté la guitare, je crois, vous êtes passé à la flûte.
Oui, tenter la guitare très vite à l'époque de la bar mitzvah dont on a parlé tout à l'heure. Oui. J'avais reçu une guitare classique et mon père m'avait offert des cours pendant 6 mois. Mais comme je suis parti à la yeshiva, c'est-à-dire à l'académie talmudique tout de suite après, j'ai pas pu continuer et je le regrette parce que je pense que voilà, jouer d'un instrument, ça aurait été formidable pour moi. Et plus tard, quand j'ai commencé l'école rabbinique, j'avais 20 ans, et puis dans le cadre de l'école rabbinique, on était moniteur de mouvements de jeunesse, et dans ces mouvements de jeunesse, il y avait une jeune qui jouait de la flûte et qui m'a initié à la flûte, et donc je me suis inscrit au conservatoire du 13e arrondissement. J'ai dû arrêter très tôt parce que j'étais en classe de solfège avec des jeunes qui avaient 7-8 ans, et moi j'avais 20 ans, donc je me sentais pas très à l'aise, mais j'ai quand même... voilà, joué du Bach, j'ai joué la sonate numéro 4 pour flûte seule, j'ai joué Mozart, le concerto numéro 2, donc j'ai vraiment travaillé. Et puis, quand on travaille un instrument, je pense que c'est la même chose pour tous les instruments, on a envie de connaître tous ceux qui jouent de cet instrument, on va les voir au concert. Et donc, je me suis pris de passion à l'époque, c'était Jean-Pierre Rampal, qu'on vient d'entendre. Et d'ailleurs, je l'ai entendu dans cette version avec le même claveciniste.
Ouais.
En concert, à la montagne. Il était venu pour l'intégrale des sonates. Et ensuite, je l'ai entendu pour l'intégrale des sonates de Bach au Théâtre des Champs-Élysées. Et je me rappelle plus qui était au piano. Mais pour moi, alors Jean-Pierre Rampal, il fait partie des personnes qui dégagent tellement de force, de bonté, de générosité, de tranquillité, de volonté de transmettre que pour moi, même si je l'ai pas connu de près, ça a été un maître. Il a un son tout à fait exceptionnel, comme vous disiez hors antenne. Et pourquoi je l'aime aussi, parce que il était proche de Claude Bolling et je l'ai entendu dans des pièces qui n'étaient justement pas que classique, et j'ai aimé cette transversalité et cette ouverture de ce grand maître.
Et puis il y a Bach, parce que on l'a évoqué tout à l'heure vraiment de très loin, mais je crois que Bach, ça vous a permis, en tout cas en préparant l'émission, c'est ce que vous disiez, ça vous a permis d'une certaine manière de vous rapprocher de votre mère, Marc-Alain Wachnin.
Je me suis rapproché de ma mère ou si c'est sa mère qui s'est rapprochée de moi, parce que en fait, vous rappelez ces expériences que faisait Tomatis, se demandant qu'est-ce que l'enfant dans le ventre de sa mère entend. Et lui, il a fait des expériences avec Mozart en disant que Mozart, c'est ce qu'il faut faire entendre aux femmes enceintes. Et je suis certain aujourd'hui, après de longues années d'expérience, que c'est Bach qui a accompagné ma mère pendant sa grossesse, parce que dès que j'entends Bach, je suis transporté dans une sorte de sérénité, de tranquillité. Et puis, il y a l'évocation justement de ma mère qui surgit tout de suite. Donc je me dis, il y a quelque chose ici d'un socle de Bach qui doit être très fort. Et tous les jours de ma vie, Bach est un accompagnateur extraordinaire.
très belle et délicate interprétation de la symphonie numéro 1 en ré majeur, dite Titan de Gustav Mahler, dans ce mouvement Feierlich und gemessen ohne zu schleppen, interprété par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Valérie Gergiev. Pour discuter avec vous, Marc-Alain Wachnin, de cette découverte, je crois, de Mahler à l'époque où vous souhaitiez devenir médecin, vous étiez étudiant en médecine, et ça accompagnait vraiment vos soirées, je crois.
Alors, précisément, ça accompagnait la soirée du samedi soir, puisque je faisais mes études de médecine à Strasbourg. Je ne rentrais, j'habitais à Metz à l'époque, enfin chez mes parents. Mon père était grand rabbin de Metz à l'époque. Et tous les samedis soirs, à la sortie du Shabbat, un temps où on n'écoute pas de musique, justement, où on n'allume pas le feu, on ne fait pas de cuisine, enfin, un temps qui est un peu réservé, protégé. Et la fin du Shabbat se termine par une cérémonie qu'on appelle la Havdala. Havdala, c'est-à-dire la séparation entre le temps saint et le temps profane de la semaine. Et pour marquer cette transition, on avait pris l'habitude avec mes sœurs et moi-même et ma mère, mon père devait être encore à la synagogue, d'écouter la musique et on mettait toujours les mêmes disques et en particulier cette musique de Mahler, donc qui pour moi, je la réentends tous les samedis soirs et là encore ça fait surgir le visage de ma mère et c'est un moment très particulier parce que je sens dans cette musique, qu'il y a à la fois quelque chose de très savant et en même temps quelque chose de très populaire. Les auditeurs ont certainement entendu le frère Jacques en mineur, c'est vous qui me l'avez dit hors antenne, j'aurais pas été capable de le savoir, mais en mineur. Et puis on a des motifs paysans avec des motifs très savants. Et je crois que cette rencontre de tonalités, d'horizons divers, c'est, on parlait tout à l'heure de république, et je pense que là, c'est quelque chose de politiquement républicain, de faire en sorte que la musique ne soit pas quelque chose, bien sûr, c'est élitiste parce que ça s'écoute dans des salles de concert, mais dans sa construction, dans sa naissance, c'est quelque chose qui doit trouver ses racines non seulement dans la dimension bourgeoise, mais aussi dans la dimension paysanne. Et ce que fait Mahler, c'est faire rencontrer ces deux univers, populaire et savant, paysan et bourgeois, et on l'entend dans des ruptures de rythme qui s'accélèrent ou qui se superposent, et puis il y a des strates, on entend en même temps, c'est pas successivement, et c'est en même temps. Et c'est en même temps donne à la musique une sorte de profondeur, comme un contrepoint, mais ça veut dire qu'on passe de la temporalité du temps de la musique à sa mise en espace. On a vraiment l'impression de rentrer dans un espace qui est à la fois un espace, je dirais, virtuel, au sens géométrique, mais en même temps, on a l'impression de retrouver les paysans à la campagne ou de se retrouver. Et je crois que là, il y a une très, très, très grande force qui m'est chère. Et je crois que cela m'a accompagné ensuite dans ma recherche et dans mon enseignement, parce que je tiens toujours à faire en sorte que les recherches les plus savantes soient articulées avec des éléments éminemment populaires.
Et qui fait écho aussi, si je peux me permettre, Marc-Alain Wachnin, à votre histoire, puisque l'histoire de la rencontre de vos parents tient aussi, pas du miracle, mais de ces mondes qui sont si éloignés, si différents, qui réussissent à faire un lien. Un père donc émigré du Maroc, rabbin et violoniste, il faut le préciser, oui. Et votre mère prof d'anglais, issue de la communauté juive alsacienne, bourgeoise,
oui.
Et a priori, rien ne devait les faire se rencontrer, et pourtant...
Oui, alors, bourgeois, ils l'étaient tous les deux, parce que mon père était d'une famille bourgeoise aussi, son père était directeur de la poste de Marrakech, et on l'appelait l'homme de lettres de Marrakech.
Ah d'accord.
Oui, alors la rencontre, elle est étonnante dans les années 50 parce que le Maroc et l'Alsace et le Luxembourg se rencontraient pas nécessairement. Il y a une anecdote justement à propos de cette rencontre. Quand ma mère a annoncé à ses parents qu'elle avait rencontré un Marocain, pour les parents de ma mère, c'était inconcevable. C'était quoi, tu vas épouser un Arabe? D'une certaine manière, je mets des guillemets parce que c'était effectivement péjoratif. Alors elle a eu l'idée de dire non, mais il est musicien, il joue du violon. Alors le père a accepté, et mais il n'a pas accepté. Il a dit quoi, non, je veux pas non plus un artiste. Alors il dit mais essaye au moins, écoute-le. Donc il est arrivé chez ses beaux-parents, et il a joué du violon. Et je demande toujours à mon père comment ça s'est terminé. Et mon père dit j'ai pu l'épouser parce que mon beau-père a dit à sa fille, à ma mère, tu peux l'épouser parce que c'est pas un artiste.
Introduction du Magnificat en ré majeur de Jean-Sébastien Bach par Vox Luminis sous la direction de Lionel Meunier, qui nous renvoie encore, je crois, Marc-Alain Wachnin, à cette rupture du Shabbat où vous écoutiez Mahler, et également Bach, le Magnificat, et Handel aussi. Mais bon, là on va parler du Magnificat.
Le Magnificat. Alors oui, ce Magnificat... qu'on chantait d'ailleurs à tue-tête et que je chante encore de temps en temps. D'ailleurs, quand je chante tout seul, c'est un petit peu Bach qui revient, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour cette raison que c'est certainement la musique que j'ai entendue en premier dans mon existence et ma préexistence. Mais pourquoi ça me fait du bien et ça me fait plaisir d'en réentendre encore, et je vous remercie, ce Magnificat de Bach, parce que ça renvoie à cette expérience dont j'ai parlé tout à l'heure de ce chanoine Vancourt qui, avec son assistante qui s'appelait mademoiselle Raymonde Lombard. D'ailleurs, c'était toute la résistance de Lille pendant la guerre qui c'était le réseau de la résistance. Il y avait Le Canuet. Ma mère raconte qu'elle a joué sur les genoux de madame Le Canuet, qui était prof d'anglais. Elle a rencontré Jean Grenier à cette occasion. Mais pour moi, ça renvoie aussi donc à ce moment de sauvetage, mais qui vient après un moment tragique qui, je pense, a marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui. À savoir que ma mère raconte qu'au moment, donc ils sont à Lille, On est en 42, au moment où les Allemands viennent pour les arrêter, ils savent pas que c'est une famille juive, ils viennent arrêter une cousine, mais ils savent pas que c'est une cousine, et ils repartent, voyant qu'il y a personne qu'ils peuvent arrêter, ils repartent. Et au moment où ils sont en train de repartir, et ma mère dit, elle était là avec sa mère, il y avait, les Allemands avaient c'était la police allemande avec des grandes plaques et des chiens, des bergers allemands, et au moment de repartir, il y a juste le frère de ma mère, donc mon oncle, qui arrive avec une étoile jaune sur son manteau. Et l'Allemand demande à ma grand-mère, qui est cet enfant, et elle dit, c'est mon fils. Alors il dit, ah, vous êtes juif? Alors elle dit oui, elle dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas encore votre tour. Et en 2004, donc c'est vraiment 60 ans plus tard, mes parents sont à Villard-de-Lans et tout à coup, elle est prise de malaise terrible et au point qu'on est obligé de la descendre en hélicoptère à l'hôpital de Grenoble. Et puis on lui fait des analyses et on s'aperçoit qu'elle a strictement rien. Et ça m'a beaucoup questionné, donc j'ai recherché et je me suis dit, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là à Villard-de-Lans? Et ce jour-là à Villard-de-Lans, elle l'a compris qu'après, il y avait le Tour de France qui arrivait. Et toute la journée, elle a entendu « le Tour arrive, le Tour arrive ». Et quand elle a entendu que le Tour arrivait, elle a eu l'impression que c'était la fin de sa vie qui était en train de basculer. Et je dis que, en fait, la fin de sa vie a basculé parce qu'on est en 2004, elle est décédée en 2007 et ce livre, La Genèse de la Genèse, lui est dédicacé in memoriam. Je crois que, en fait, à 60 ans d'écart, elle a porté toute sa vie cette angoisse, elle attendait que quelque chose de dramatique arrive et je crois qu'elle en est morte.
Brigitte Engerer interprète ce nocturne pour piano numéro 1 en si bémol mineur, opus 9 de Frédéric Chopin. C'est une version qui vous tient particulièrement à cœur, Marc-Alain Wachnin. Vous aimez le silence qu'il y a entre les notes que joue Brigitte Engerer?
Oui, alors c'est une chance de l'avoir découvert, parce que de la même façon que pour la traduction, par exemple pour la Genèse de la Genèse, pour chaque verset, j'ai regardé toutes les traductions qui existent, que ça soit en français, en anglais, en allemand, en latin, en grec, pour justement entendre les différences. Et je pense que dans la musique, pour comprendre une partition, pour comprendre une œuvre, il faut l'entendre par différents interprètes, parce que c'est la différence d'interprétation qui va nous faire entendre justement des petits changements
et
nous et un sens et nous rendre attentifs. Et là, j'ai eu la chance d'écouter cette version de Brigitte Engerer, et puis en même temps, j'écoutais l'autre version, une autre version qui est celle de Claudio Arrau. Et je me suis aperçu que dans la première mesure, la dernière note ou la première note de la deuxième mesure, tout à coup, chez Brigitte Engerer, il y a comme un silence. Au lieu d'avoir, excusez-moi, je chante pas juste le piano, mais au lieu d'avoir ta na ni na ni na na, on a ta na ni na ni na na. C'est-à-dire que la note, on la connaît, parce que c'est justement de pouvoir la connaître, parce qu'on a soit écouté plusieurs fois le même disque ou on a entendu plusieurs fois le même concert, le fait que la note, on la connaisse, on l'attend. Et lorsque, justement, elle ne vient pas exactement au moment où on l'attendait, qu'il y a ce petit décalage, ce micro-retard, ce que j'appelle ce micro-silence, moi, j'ai appelé ça, de manière très intuitive, je pense que ensuite j'ai retrouvé cela chez Cortot, j'ai appelé cela la note bleue. La note bleue, c'est la note que l'on sait qui va arriver, mais qui n'arrive pas, mais qui arrive quand même. Et dans ce suspens, il y a comme tout le corps et toute la respiration, toute la vie est en suspens, puis ça arrive et tout à coup... Ah, j'ai donné à cette note le nom d'une note messianique, note bleue et note messianique, parce que le Messie est aussi celui que l'on attend, sauf que à la différence, si vous voulez, que dans le christianisme le Messie est arrivé, dans le judaïsme le Messie est fait pour ne pas venir. Donc c'est comme si la note qui va tomber dans la partition n'arrivait jamais, comme si on s'arrêtait. C'est un petit peu comme chez Kafka, on ne connaîtra jamais la suite, ou on ne connaîtra jamais ce qu'il y avait avant.
Le rapport à l'attente permet donc de faire un sens par rapport à cette attente, Marc-Alain. Oui.
Exactement. C'est-à-dire que le silence donne une épaisseur à l'attente.
Voici un peu de silence, justement. Un extrait de 4 minutes 33 de John Cage. On a pu savourer tous les bruits parasites, entre guillemets, qu'il y a quand on fait silence. Marc-Alain Wachnin, ce rapport au silence, c'est vraiment presque le cœur d'une de vos pensées. C'est-à-dire que c'est par rapport au silence qu'on fait sens?
C'est par rapport au silence que des sens peuvent surgir.
C'était la démarche de John Cage.
John Cage. Et alors, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs cette pièce qui est intitulée, enfin, sur la partition, il écrit tacette, une expression d'écriture musicale qui signifie que l'instrument doit faire silence. Alors, c'est très drôle quand on le voit en concert parce que le chef d'orchestre lève le bras, mais rien ne se passe. Il y a beaucoup d'humour aussi. J'ai vu une version où il sort un mouchoir pour s'éponger. Et puis, entre les morceaux, le public tous, comme dans un véritable concert, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, le public tous, ça fait partie d'ailleurs du concert, mais le silence est quelque chose d'essentiel de la pensée, et dans la tradition juive, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est écrit de 4 lettres, Yod, Evav, E, 4 consonnes qui ne sont pas ponctuées, qui ne sont pas vocalisées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prononçables. Et d'une certaine manière, dans le texte biblique, quand le nom de Dieu est écrit, en fait, on se tait. Au lieu de dire, par exemple, en français, on dirait « Dieu a dit », en hébreu, on dirait « a dit ». Mais comme on ne peut pas, à chaque fois que le nom de Dieu apparaît, se taire, alors on a trouvé un nom qui remplace, qui est le nom Adonai. Mais le nom Adonai veut dire « je suis en train de dire un nom qui normalement devrait être silence, mais je le dis pour marquer ce silence. »
Mais pourquoi il est silence ?
Il est silence parce qu'il est infini. Parce qu'on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le comprendre. La façon de dire quelque chose, c'est déjà de se l'approprier. Et la tradition a retenu cette idée que on ne peut pas, la main ne peut pas se refermer sur le divin. On peut s'approcher vers le divin. Et Lévinas avait cette belle formule, si on ne prend pas avec la main, mais que la main s'approche, on est dans la dimension de la caresse.
Et la musique peut s'approcher du divin. Si
et la musique est caresse qui s'approche du divin.
Clara Askill avec l'Orchestre Symphonique de Vienne, avec à la baguette Paul Zacher, dans cet adagio du concerto numéro 23 en La majeure, que seul 488 de Wolfgang Amadeus Mozart, où là encore on essayait de poursuivre ce rapport au silence et au temps, Marc-Alain Wachnin, très bien interprété par Clara Askill, vous l'avez ressenti.
À chaque note, on sentait qu'elle pouvait faire la note plus vite, mais elle attend, il y a ce micro-retard qui nous transporte, qui nous élève, et particulièrement avec Mozart, on a l'impression que c'est un tremplin pour aller vers le ciel. On peut sentir, en tout cas, on le disait, que Mozart est une sorte d'échelle entre le ciel et la terre. On monte, on descend, on monte, on descend, et puis il y a ces silences qui nous accompagnent. Et je crois que ces silences sont très importants, justement, dans la traduction. Par exemple, dans ce travail sur la genèse de la genèse, j'ai suivi une des grandes leçons de Henri Méchonique. Henri Méchonique, qui a voulu, dans le texte de sa traduction, parce que c'est un des grands traducteurs de la Bible, il a introduit le silence, mais par des blancs, exactement comme chez Mallarmé. Et par exemple, il disait toujours, je vais vous donner sa version, parce que pour rendre hommage à un de mes maîtres, sa traduction, il disait, on peut traduire au commencement que Dieu a créé le ciel et la terre, et il disait toujours, non, il faut lire au commencement que Dieu a créé le ciel et la terre. Et là, on entend tout ce silence qu'on retrouve dans cette musique de Mozart, qui, comme je le dis souvent, s'il n'avait composé que ce concerto d'Aïenou, cela nous aurait suffi, parce que c'est sublimissime.
Justement, ça nous renvoie aussi à l'interprétation. C'est-à-dire que ce que vous nous faites entendre là, c'est une interprétation du commencement, et donc de la Genèse, et l'interprétation en musique, c'est sans interprétation, il n'y a pas de musique.
Sans interprétation, pas de musique, parce que la musique, c'est une partition. Donc, il y a quelque chose qui est écrit, exactement comme le texte biblique, mais ensuite, il doit être interprété. Si le texte ne restait que le texte sans l'interprétation, sans le commentaire, c'est comme la musique qui resterait partition sans quelqu'un qui est en train de la jouer. Donc, il y a une très, très grande proximité entre l'interprétation des textes et l'interprétation musicale.
Pour terminer sur cette question de l'interprétation et de l'existence musicale, la musique vous accompagne visiblement depuis toujours, Marc-Alain Wachnin. Est-ce que cette ouverture qui a été la vôtre aux langues, aux textes, vous a permis de vous ouvrir à tout? On dirait que vous savez accueillir la nouveauté.
Oui, c'est juste. Mais peut-être cette nouveauté, comme vous dites, les langues étrangères, les différentes langues, fait que on est attentif à l'altérité, on est attentif à une autre langue, à une autre personne. On peut l'accueillir. Et je pense que la musique, justement, qui est faite à la fois de notes, mais à la fois de blancs, ces blancs, c'est peut-être des lieux d'accueil pour accueillir d'autres notes et d'autres personnes et d'autres musiques. Et la musique, il faut la vivre comme ce lieu d'accueil.
un extrait de Nomos Alpha pour violoncelle de Yanis Xenakis, interprété par Siegfried Palm, pour évoquer avec vous, Marc-Alain Wachnin, ce que vous mentionnez dans la genèse de la genèse, dans votre préface. Vous parlez de la tradition du nouveau, qui est, je trouve, un terme absolument savoureux. Et vous le dites, que serait la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, comme tous les arts et comme toutes les techniques, si l'homme n'avait pas cherché à innover? C'est là, on est exactement dans cette ouverture qu'on évoquait à l'instant, Marc-Alain Wachnin, cette nécessité finalement de toujours rester ouvert à ce que l'homme propose de nouveau et qui ajoute une pierre à l'édifice.
Oui, c'est sur ce nouveau, enfin la formule vous la trouvez savoureuse, moi aussi, elle est de Harold Rosenberg qui a écrit un livre qui s'appelle La tradition du nouveau. Et l'idée c'est que être, c'est toujours inventer. Être, c'est toujours se construire différemment. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait répétition, parce qu'il doit y avoir transmission. Mais si on n'est que dans la répétition, on est dans l'arrêt du temps. Et ce qui fait la vie, c'est la capacité de découvrir de nouveaux chemins, des chemins qui n'ont jamais existé, de l'inédit, de l'inouï. Et ce que font les compositeurs, ce que font les poètes, un poète, c'est quelqu'un qui trouve des mots, qui les organise de telle manière que la phrase qu'il nous offre n'a jamais été dite et on pourrait pas l'inventer, c'est lui qui doit l'inventer. Et dans cette écriture de Nomos Alpha, je l'ai découvert par une citation de Lévinas dans son livre Emmanuel Lévinas, qui s'appelle « Autrement qu'être au-delà de l'essence ». Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est que Lévinas dit « La musique dans Nomos Alpha pour violoncelle seule, de Xenakis par exemple, infléchit la qualité des notes émises en adverbe, toute cuidité se faisant modalité, les cordes et le bois s'en allant en sonorité. » Alors, c'est très compliqué, Lévinas, mais j'ai retenu juste une formule. Les cordes et le bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout à l'heure, on écoutait du piano, on écoutait des orchestres, mais on écoutait la musique. Et tout à coup, avec Xenakis, on se rend compte, parce que la musique, elle est compliquée, que l'on revient à la matière même sonore de l'instrument. C'est-à-dire que l'instrument n'est pas oublié dans la musique. Et cette expression « corde et bois », pour moi, ça a été une révélation, parce que corde et bois, c'est une expression biblique qui renvoie au non-sacrifice d'Isaac. Quand Abraham va monter sur la montagne pour sacrifier son fils, il va le lier et à un certain moment, il va mettre du bois pour le sacrifice, il va lever la main pour le tuer, puis il y a l'ange qui va arrêter sa main, le bois ne sera jamais brûlé et les cordes vont être déliées. Et ce que je crois, c'est que quand on joue du violoncelle, quand on joue des instruments à cordes qui est formé de bois et de cordes, on a toujours une sorte de retour au non-sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire que la musique, quand elle est jouée sur ces instruments, c'est une manière de dire que non, on ne peut pas tuer un autre homme pour vivre. La musique, c'est un fondement de la culture qui raconte à sa façon l'interdiction du meurtre et dans la nouveauté de la création, l'invention renouvelée à chaque fois de la vie.
Marc-Alain Wachnin, pour raccrocher cette interprétation du bois à la genèse de la genèse, il faut aussi dire deux mots justement sur la place que vous laissez à l'art abstrait tout au long de cette genèse où finalement vous faites en écho des tableaux au texte. La tradition du nouveau, c'était pour trouver un écho à ce que vous avez cherché à traduire?
Non, c'est l'art abstrait, c'était au départ, on pensait faire des illustrations figuratives de la Renaissance du Nord. Et puis, avec l'éditrice Diane de Sellier et son équipe, on s'est très vite aperçu que ça fonctionnait pas. Et d'un commun accord, tout de suite, on a pensé à illustrer par l'art abstrait. D'où ce livre qui, avec des choix que nous avons faits en commun, j'ai proposé des illustrations, on a eu des contre-propositions, on s'est mis d'accord sur des illustrations qui sont, il faut le dire, extraordinaires. Il y a une sorte de jeu entre l'écriture et ce qui est visible, ce frottement entre le lisible et le visible, dit Roland Barthes. Mais grâce à ce livre, j'ai compris ce que c'était que l'art abstrait. Et on se trompe quand on pense que l'abstrait est l'opposé du figuratif. Le figuratif peut être abstrait, et l'abstrait peut ne pas être abstrait du tout. L'abstrait, c'est s'abstraire de la pulsion de l'immédiateté de la compréhension.
La fin en suspens de Prayer de Keith Jarrett, extrait de l'album Death and the Flower avec Charlie Haden. Et donc Keith Jarrett, bien sûr, au piano. Marc-Alain Wachnin, il nous reste très peu de temps, mais je trouvais qu'il y avait un lien évident entre l'abstraction et l'improvisation, pour terminer. Vous êtes un féru d'improvisation, et notamment de Keith Jarrett.
Oui, je dirais que je suis surtout un féru d'improvisation dans l'enseignement, c'est-à-dire je crois que enseigner, c'est avec ses étudiants être à leur écoute, chercher, tâtonner, découvrir en fonction de ce qu'ils vont dire, prendre d'autres pistes qu'on n'avait pas envisagées, c'est-à-dire ne pas savoir à l'avance. Je cite toujours cette citation apocryphe de Rabbi Nachman de Bratslav qui fait le tour du monde, mais qui est un apocryphe que j'ai inventé, qui dit « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourras pas t'égarer. » Je crois que celui qui improvise, disent, comme Kate Jarrett ici, de manière absolument géniale. Et il sait pas où il va, et c'est en cherchant que il fait justement des découvertes. Et je crois que la pensée qu'il cherche et la pensée qu'il trouve, c'est une pensée qui improvise, mais pour cela, il faut énormément de travail. L'improvisation n'est pas une paresse de l'esprit, c'est le résultat d'un formidable travail. Alors, ne pas savoir à l'avance, c'est justement se questionner, et aussi interpréter. Je disais tout à l'heure que l'abstraction, c'est ne pas céder à la pulsion de la compréhension immédiate. C'est valable pour la peinture, c'est-à-dire Kandinsky disait « Ce que je recherche, c'est que le spectateur va prendre du temps pour essayer de comprendre ce que j'ai fait. » Et il disait « Je vais mettre des petites énigmes dans les tableaux pour que le spectateur prenne le temps. » Comme disait Nietzsche, il faut qu'il y ait du lento, il faut qu'il y ait une sorte de temps qui est pris. Et je crois que la notion de la peinture abstraite, qu'est-ce que c'est que la peinture abstraite? C'est de la peinture dans laquelle on met de la musique, ça veut dire dans laquelle on rajoute du temps, une temporalité qui va être celle du questionnement. Qu'est-ce que veut dire cette œuvre? Prendre le temps, des fois on ne comprend pas tout de suite, et c'est ça qui fait que on s'ouvre à l'infini.
La genèse de la genèse illustrée par l'abstraction, c'est signé Marc-Alain Wachnin. Ça a apparu aux éditions Diane de Cellier. On va se quitter. Je rappelle qu'on peut vous retrouver le dimanche à 9h10 sur France Culture, Marc-Alain Wachnin dans l'émission Talmudique. Et on va se quitter avec un musicien que nous aimons beaucoup tous les deux, qui lui aussi a le sens de l'improvisation, mais en s'inspirant justement aussi des textes. Yom, qui interprète ici Le silence de l'Exode, un très beau disque qu'il a réalisé il y a quelques années. Un grand merci à vous.
Merci à vous, Elsa Boubli.
Le silence de l'Exode, pour terminer cette émission en compagnie de Marc-Alain Wachnin, qui vient de signer ce très beau livre d'art, la genèse de la genèse, illustrée par l'abstraction. C'est une belle façon de découvrir à la fois l'histoire de l'art et la genèse aux éditions Diane de Cellier. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Un grand merci à Xavier Lévesque qui était à la prise de son, Sophie Pichon, réalisation Marie-Ferdinand, attachée de production. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine à l'écoute de France Musique. À dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.